ça. Il y a une vingtaine d'années, il y a deux boys qui se sont installés en arrière d'une console pour faire une émission de radio. Et 20 ans plus tard, même si personne n'avait envie d'y réentendre, ils ont décidé de repartir ça, ce show de radio-là. Et vous assistez à la deuxième de l'émission Décibel. Ça nous fait vraiment plaisir d'être là, d'être de retour avec vous autres, de pouvoir vous jaser en espérant que vous autres, ce ne soit pas juste David et moi. Parce
toi
que,
et puis moi.
C'est ça. Ça va être dole en mots, Dine Dabine. Mon nom est Éric Mignot et avec moi, David Lemelin. Puis on choisit des sujets au courant de la semaine qui nous intéressent, des sujets qui nous interpellent, qu'on peut trouver drôles. Et on va agrémenter ça de musique auquel, si on est capable, ben, ça va avoir rapport avec nos sujets. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire. On a quatre sujets pour vous. On va parler de laïcité, on va parler de Trump qui revient souvent. On va parler aussi de Politically Correct et peut-être même de jeux vidéo.
Je suis chez moi.
Everybody be cool, this is a robbery!
It's Decibel.
Oula!
S'ils en veulent d'argent, qui risque qu'ils fassent comme moi et qu'ils travaillent.
Ils sont chanceux, j'ai oublié mon frère.
Go back to bed, America. Your government is in control.
Qui sont les chiens? Qui sont les chiens?
Vous faites des dieux, oui ou non?
Où je vais en Floride, hostie, c'est là qu'il m'attend.
Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire.
Jeffrey!
Mon Dieu, le chien!
I'm gonna
execute every motherfucking last one of you!
Non, ne me charge pas.
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
Vive le Québec!
A crap gendarme!
Qu'en avez-vous? Maintenant, on vous fait.
Ah, je savais bien que ça serait bon.
Et pour tous ceux qui nous suivaient il y a 20 ans, vous avez reconnu dans le thème plein de segments qu'on utilisait pour agrémenter l'émission. Puis là, ben, on a tout mis ça en l'espace de quelques secondes. Moi, j'aime vraiment, vraiment ça. OK.
D'ailleurs, d'où il vient le décibel?
It's Decibel.
It's Decibel.
Ça, ouais. C'est Blaze Bailey, c'est le chanteur d'Iron Maiden qui avait remplacé Bruce Dickinson, son passé à Québec. Et j'avais réussi à l'avoir en entrevue pour le show. Et comme je parlais pas assez bien anglais, j'avais demandé à un gars de la station de faire l'entrevue à ma place. J'avais donné des questions. Et une fois que ça a été terminé, il nous avait fait un indicatif. It's Decibel, you're rocking with the greatest station in the nation. Quelque chose du genre.
Oui, c'était ça, oui.
Et
the greatest station in the nation.
Si le gars avait connu l'émission et connu la station, il aurait jamais dit ça.
It's a complete waste of time, Decibel.
Donc, c'est de là que ça D'accord. sort. Ça avait été trippant quand même d'avoir... un chanteur d'un groupe international en entrevue. Puis, ce qui est drôle, c'est que dans l'histoire d'Iron Maiden, l'album, il a fait un album. Il a fait l'album X, donc l'album 10. Et eux, quand ils parlent de leur discographie, ils passent de l'album 9 à l'album 11. Ils n'existent pas. Ils ont scrappé tout ça de leur histoire. Moi, ça me fait pisser à terre.
C'est stupide.
Ben, ça a été autant pour eux peut-être que, et surtout pour les fans, un mauvais moment à passer.
D'accord.
Dans nos sujets d'aujourd'hui, je te lance avec la laïcité parce que ça fait parler. Il n'y a pas.
C'est un gros sujet. Puis c'est, je suis persuadé qu'il y a plusieurs chaumières qui sont en débat à l'heure actuelle, qui se posent des questions parce que. Souvent, d'ailleurs, on commente l'actualité sans savoir de quoi on parle. Ça, c'est une habitude dans cette ère de l'opinion à tout vent. On va jaser d'abord, réfléchir ensuite, si on prend le temps de réfléchir. Et puis, même si tu te donnes la peine de réfléchir dans le dossier de la laïcité, ce qui est particulièrement intéressant, manière de parler, c'est que dans les deux camps qui s'affrontent, il y a des arguments qui sont intéressants. Donc là, t'es un peu fourré. Il y a beaucoup de monde qui sont fourrés, même quand tu te penches sur le dossier. Donc, non, je trouve ça vraiment très intéressant. Je peux peut-être juste te dire, mettre quelques éléments pour qu'on sache d'abord de quoi on parle. Dans le projet de loi 21, ce qui accroche particulièrement, c'est les interdictions des signes religieux. Hein, parce que tu sais que l'objectif, c'est la laïcité de l'État, donc de dégager l'espace public des signes ostentatoires religieux de tout acabit. Et dans les interdictions, ce qu'ils ont mis notamment, c'est plusieurs catégories d'employés de l'État qui sont en position d'autorité qui sont visés par le projet de loi. Dans le secteur de l'éducation, on trouve les enseignants du primaire, du secondaire, qui œuvrent évidemment dans le réseau public, les directeurs d'école, les directeurs adjoints, le secteur scolaire privé, lui, est exclu. Dans le secteur judiciaire, le port des signes religieux est interdit, sera interdit aux agents de la paix, policiers, gardiens de prison, agents de la faune, les juges de paix, greffiers, commissaires, membres de commissions d'enquête, procureurs, arbitres au sens du Code du travail. Les juges seront épargnés par la future loi, mais le gouvernement confie au Conseil de la magistrature la responsabilité d'établir des règles traduisant les exigences de la laïcité de l'État. J'en fais ce que tu veux, mais fais-le de même.
Tu sais que tu m'as perdu après... tu m'as perdu après enseignant.
Ouais, voilà. Mais c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde dans des positions, effectivement, de décision. C'est ça que c'est ce bout-là qui fait grincer, hein, particulièrement. Parce que ceux qui sont... contre le projet de loi, disent que les droits fondamentaux devraient primer là-dessus. C'est-à-dire que c'est un droit, c'est écrit dans les chartes. Tu as le droit de porter des signes religieux si cela te tente. Et c'est protégé par une charte qui a été adoptée, donc qui a été votée.
Mais la charte, elle n'a pas été écrite et adoptée à un moment où, et là, chez nous, l'Église menait le pays. Et on est-tu rendu ailleurs ou... Je me trompe-tu?
En fait, c'est début des années 80, hein, la Charte des droits et libertés, Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise des droits de la personne qui a suivi, c'est tout au début des années 80.
Okay.
Donc déjà, l'Église, on peut s'entendre qu'elle avait déjà perdu pas mal de poigne.
On se rappelle
qu'à la petite école, il y avait encore du religieux, mais c'était en train de disparaître sous nos yeux ébahis. Donc, ça répondait à cette volonté-là. Dans le fond, je te dirais que la Charte canadienne des droits et libertés, les anti-Trudeau pourraient dire que c'était une façon de limiter la capacité collective du Québec, mais d'autres pourraient dire aussi que c'est une façon pour le Canada d'arriver dans son siècle, c'est-à-dire de rejoindre ces nations qui ont des droits et libertés fondamentales qui sont établis, respectés, encadrés clairement. Mm-hmm. Donc, c'est ça l'objectif, là. Et puis si je poursuis... Oui, non, ça va, c'est correct.
Oui, hein,
c'est un bon monologue. Tu vois, il y a une couple de jokes qui s'en viennent, là.
Ça
sera pas long. Ça sera pas long. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a eu des questions qui étaient intéressantes qui ont été soumises aussi par, notamment, Gérard Bouchard. Tu sais qui est Gérard Bouchard?
Non. Honnêtement, c'est un débat, ça, dans lequel ça m'intéresse pas. J'ai pas eu envie de lire, j'ai pas envie d'écouter. T'as envie d'en parler, je me suis dit, je vais t'écouter.
Ouais, ben Gérard Bouchard, qui est le frère de Lucien, tu connais Lucien, j'espère?
Oui, Lucien.
Lucien Bouchard, bon, hein, va travailler, maudit lâche, bon, on est un peuple qui fait pas ses d'enfants, forcez-vous, il faut. Bon, c'est lui, ça. Et Lucien Bouchard a un frère qui s'appelle Gérard. Gérard a un peu le même ton, mais il parle un petit peu plus mieux. Mais bon, il faut comprendre, là. Et il est venu dire des choses intéressantes, là. Entre autres que, et je vais te lire l'extrait de l'article, ça résume assez bien ce qu'il dit. Selon lui, M. Bouchard, mais pas Lucien, mais Gérard, en excluant les enseignants et les directions d'école du projet de loi pour interdire qu'aux fonctionnaires ayant un pouvoir coercitif le droit de porter un signe religieux, le gouvernement aurait de bonnes chances de convaincre les tribunaux. Ce qu'il dit, c'est que, on peut comprendre qu'on dise aux policiers « t'as pas de signe religieux », on peut comprendre que les juges n'en aient pas, on peut comprendre que les agents dans les prisons n'en aient pas. Ça va, on est capable de vous suivre. C'est après. Où est-ce qu'on trace la ligne pour dire que vous, les enseignants, vous n'avez pas le droit? Il dit « vous pouvez le penser, mais le démontrer, c'est là qui est le plus compliqué, parce que sur le plan légal, il faut que tu puisses le prouver. Est-ce que vous avez des études pour appuyer ça? Parce que vous avancez que nos enfants seraient traumatisé s'il voit une enseignante avec un voile. Et ça a été avancé très sérieusement d'ailleurs. Et c'est là-dessus que le débat se mène en disant « Mais tu sais, vous créez des interdictions sans avoir aucune base solide autre que ça a l'air que ou on pense que. » Fait que disons que ça crée des débats. Et ce qu'on dit en contrepartie, c'est que comme ça fait comme 20, sinon 30 ans qu'on parle de ça, en pointant du doigt directement une catégorie de gens, au lieu de calmer le jeu, vous allez au contraire créer davantage de remous. Fait que ce qu'on est en train de penser présentement, puis ça risque d'arriver, c'est qu'on va embarquer dans une série de contestations judiciaires. Et au lieu de mettre le couvercle sur la marmite, ben on va monter le feu.
Ouais. Mais, voilà. Mais tu vois, moi, il y a plusieurs affaires que j'ai entendues au départ. C'était, aucun signe religieux pour les employés de l'État. Ouais. Et est-ce qu'un enseignant, c'est un employé de l'État? Si oui, donc ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou également. La ligne où je la trace, c'est là. Es-tu, si tu es un employé de l'État, il n'y a pas de signe religieux. Perso, moi, ça m'allait très bien. Jusque-là, ça va. Mais si c'est pas considéré comme un employé de l'État, je comprends pas pourquoi on empêcherait à ce moment-là, qu'on obligerait un code vestimentaire. Là, c'est un code religieux. Puis l'autre affaire que j'ai entendue, nous perdrons des employés qualifiés, des gens qui sont compétents parce qu'ils n'ont pas le droit de porter une croix au cou, parce qu'ils n'ont pas le droit de porter un voile, et ça. De ce côté-là, je pense que c'est un bon argument, mais est-ce que c'est vraiment ce qui va arriver? Je sais pas.
Ben, dans une certaine mesure, mais tu sais, c'est un pourcentage tellement infime. C'est ça aussi que les gens répondent en disant « Bon, ben OK, ça va cibler quelques personnes, mais combien? Pas tant que ça. » Ben, alors, l'argument se prend des deux bords, c'est-à-dire que si on impose la loi, ça ne touchera pas grand monde, donc c'est pas grave. Mais pourquoi tu fais la loi puisque ça ne touche pas grand monde?
Tout le monde en mange parce qu'ils sont plus fraîches et ils sont plus fraîches parce que tout le monde en mange.
Mais c'est ça qui est le bout, c'est que c'est à la fois fascinant et inquiétant parce que dans le fond, on a des arguments qui s'entrechoquent et qui sont presque aussi valables l'un que l'autre. Donc c'est intéressant, si bien que je lis un passage qui ne t'étonnera pas. C'est sur les sondages, on sondé les Québécois. Les débats des derniers mois n'ont pas modifié l'opinion des Québécois. Le taux d'appui reste le même. Près de 2 Québécois sur 3, 64% soutiennent le projet de loi du gouvernement Legault de bannir les signes religieux pour les employés de l'État en situation d'autorité, incluant les enseignants. Donc, c'est la même affaire qu'avant. Ce qui est drôle, c'est qu'ils disent « Les répondants sont beaucoup plus divisés quand vient le temps de s'exprimer sur les conséquences que devraient subir les contrevenants à la loi. Faudrait-il les congédier? » Bien, c'est 43% oui. Puis ceux qui disent qu'il ne faudrait pas les congédier, 43%. C'est vraiment... Fait qu'imagine le politicien, comment il se sent là-dedans. Une majorité pense qu'il faudrait plutôt leur imposer une amende financière et une très vaste... Ça, c'est 54%. Une très vaste majorité convient de, à 86% que passer du temps en prison serait une punition exagérée. Bon, tu dis, OK, parfait, on se rendra pas jusque-là. Autre élément du sondage, juste pour que tu comprennes bien à quel point le politicien assis en arrière de son bureau, il est un peu fourré. 48% des répondants ont dit que le projet de loi aura un impact négatif sur les relations entre les différents groupes culturels. Ça a été dit beaucoup. La clause des droits acquis intégrés au projet de loi est une bonne idée selon 51% et une mauvaise idée selon 49%.
Voilà.
C'est quoi, oui, là? C'est de même à grandeur. Là, après ça, questionner à savoir si tel ou tel signe religieux devrait être permis au travail, les Québécois sont à l'aise avec 57% pour le crucifix et l'étoile de David, tiens donc, 51% pour ça. Le kippa un peu moins, 45%. Le turban, 41%. Le hijab, 41%. L'habit des sœurs, 42%. Et pas du tout avec le kirpan, 15%. Et le niqab, 7%. Fait que tu sais, il y a... voilà. Bonne chance, là. Bonne chance d'un débat. Bonne chance.
Non, c'est clair. C'est sûr que t'aboutis nulle part, mais ces résultats-là, les derniers que tu nous as mentionnés, prouvent une crainte... très clair d'une partie de la population envers une autre infime partie. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un ami où je me disais, ben, sais-tu, moi, j'ai pas envie que mes enfants à l'école, à l'âge de 7-8 ans, posent une question à son prof qui parce qu'il y a un signe religieux quelconque et que ce prof-là en profite pour dire, ben, voici, ça, c'est ma religion, puis c'est la meilleure, puis elle est bonne. Et sans dire lui faire un brainwash complet parce qu'il n'y aura pas le temps, ben, l'influencer peut-être vers cette religion-là, ou qui arrive à la maison puis qui me pose des questions que je suis pas capable de répondre. Mais en même temps, c'est ce que tu disais un petit peu plus tôt, c'est combien de monde qui sont enseignants et qui portent des signes religieux que les enfants peuvent voir. et qui se servirait de cette position-là pour les influencer à adopter cette religion-là. C'est quoi, c'est un enseignant, deux enseignants à la grandeur du pays de la province?
Oui, parce qu'on parle d'école publique, bien entendu, où ils ont le programme du ministère de l'Éducation à donner et non pas à interpréter. Donc, en tant que tel, ça limite normalement la marge de manœuvre. Mais tu vois, j'ai eu cette discussion-là avec mon garçon qui me disait, tu sais, en même temps, je comprends qu'on puisse exiger des enseignants qui soient neutres. Tu sais, je disais, ça, c'est le fun dans ta tête, dire que les enseignants vont être neutres. Mais dans la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça. Tu sais, de manière générale, tu sais, si tu penses, toi, tes profs primaires, ben, peut-être plus secondaire, on s'en rappelle un peu plus, secondaire, cégep, université, tu dis, il y en a quand même, la plupart, j'aurais de la misère à dire où est-ce qu'ils logeaient. Mais tu as toujours au travers quelques numéros que tu sais que lui, par exemple, il est vraiment à gauche, lui, il est vraiment à droite, lui, il est vraiment telle affaire, elle est vraiment telle affaire. C'est arrivé à quelques reprises, donc c'est difficile d'y échapper. Puis on pourrait essayer des contraintes, tu crois, en disant que tes droits fondamentaux de penser quelque chose, maintenant, t'es plus permis. Tu sais, j'ai fait des cours d'économie qui étaient où les auteurs étaient suggérés, étaient vraiment à gauche. Là, je suis dans un cours d'économie, le prof, visiblement, il va me demander de m'acheter un T-shirt de Milton Friedman. Il est mal barré, je le ferai pas. Ça, c'est de la droite. C'est de la belle droite capitale. C'est la main invisible est bonne. L'argent, c'est parfait. L'État est trop. Il pue des pieds. Bon, le classique. Tu sais, encore là, est-ce qu'il va essayer de m'endoctriner pendant 16 semaines? Peut-être, mais ça marchera pas. La capacité d'endoctrinement, c'est assez limité en même temps.
Oui, mais attends, là. T'es à l'université, t'es avec des adultes, des gens qui, on le suppose, entre 18 et 77 ans, hein, et qui ont un bagage, qui ont déjà choisi, qui connaissent, qui sont capables d'évaluer le pour et le contre. Par contre, avec moi, ma petite fille, elle a 10 ans, elle est en quatrième année, mon gars, il a 13 ans, dans deux semaines, il a 13 ans, il est en secondaire 1, beaucoup plus influençable. Et c'est eux que cette loi-là veut protéger beaucoup plus qu'un adulte. Donc, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que ça s'applique moins bien.
Ouais, sauf qu'en même temps, tu sais, sur l'année en tant que telle, tu sais, je reviens au programme, ton poignet pour donner le programme.
Oh non, dire,
c'est quoi qu'elle va faire au travers? Tu sais, regardez, j'ai un foulard, puis je vais vous parler de foulard tout le temps. Tu vas sortir du cadre, ça va être noté, y a les parents qui vont l'apprendre, puis là, ça va faire des commentaires à direction. Puis, tu sais, je comprends cette crainte-là, sérieusement, je la comprends, mais j'ai tendance à la... Je la prends pas si tant au sérieux que ça,
la
pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Bon, minimiser un peu, parce que pour les raisons qu'on vient d'évoquer, à savoir, il y en a-tu tant que ça, puis dans une année, tu peux faire vraiment du lavage de cerveau?
Et c'est
bonne chance.
C'est totalement de ça que les gens ont peur, puis c'est clair, c'est ce qui s'en vient. Je veux la partir tout de suite, puis ça a vraiment un lien avec ce qu'on vient de parler. C'est sorti en 2013, c'est de David Bowie, ça s'appelle The Next Day. Et je t'en parle un petit peu plus dans quelques secondes. Look into my eyes, it tells her I'm gonna say goodbye, he says yeah. Do not cry, she begs of him goodbye, yeah. All the days she thinks of his love, yeah. They're whipping through the streets and now is there. The corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song. They can't get enough of it all. Listen. J'ai jamais été un grand fan de David Bowie, mais quand tu recherches dans l'histoire de la musique, ce gars-là, il est tout le temps là. Il ressort aussi souvent que les Beatles, aussi souvent que les Rolling Stones, aussi souvent que Michael Jackson. Il est arrivé de quoi à David Bowie tout le temps dans l'histoire, à tous les jours. Et aujourd'hui, on est le 9 mai. Et le 9 mai, et je ne veux pas me tromper de journée exactement. Mon micro est trop gros, je l'ai dans face, ça m'énerve. C'est en 2013, donc c'est l'année où l'album est sorti. YouTube a décidé de bannir cette toune-là. Et là, on parle du web. Le web est difficile à froisser. Que ce soit MTV, Musique Plus, les stations de radio privées, facile. Mais pas le web. Et parce que dans ce vidéo-là, c'est l'histoire d'un prêtre qui s'en va au bordel, tout simplement. Le prêtre, c'est Gary Oldman. Il s'en va, puis c'est drôle parce que le prêtre, il a une coupe Longueuil en plus, toute bien shinée sur le côté dessus. C'est... Parce que David Bowie est le prophète, et il est habillé en prophète. Il a l'air de Jésus, en fait, et il chante. Et Gary Oldman, dans ce bar-là, il n'y a que des prêtres, que des gens qui viennent de l'église, et des prostituées. Et Marion Cotillard joue la prostituée que Oldman cruise. Et là, à ce moment-là, elle a des stigmates qui se mettent à pisser sans partout. Mais là, ça pisse. Okay. Tout le monde se fait éclabousser. Et c'est pour ça que la vidéo a été bannie de YouTube pendant un certain temps. Et il est de retour. Parce que je l'ai vu aujourd'hui. C'était la première fois que je le voyais. Fait que j'ai trouvé qu'avec la laïcité, c'était bon.
Et ils sont plus à l'aise avec les garçons qu'avec les. Les prostituées.
Mais tu vois, c'est parce qu'il y a eu un tollé, hein, les catholiques, se sont dit, ça n'a pas d'allure, une vidéo de même. Là lui, il représente non, Dieu, non. Puis là.
Non. Fait pas ça. Religion catholique est bonne, est fine. Hein? Les croisades, c'est fameux.
C'était merveilleux, ça, les croisades. Voyons donc. Mais quand même, pour te dire que la religion catholique est bien, cette semaine, quand même, le pape a dit que maintenant, on a une loi canonique qui va rendre obligatoire le signalement de tout soupçon d'agression sexuelle ou de harcèlement à la hiérarchie de l'Église.
Ben, il oui, le téléphone va sonner. Moi, j'étais lui, je le laisserais ouvert.
J'embaucherais du monde pour répondre au téléphone. Mm. Partout, on a un an pour mettre tout ça en place. Fait qu'on donne un an à tous nos curés pour se sauver quelque part dans le bois, pour être sûr qu'on ne soit pas capable de les revoir.
Ouais, ils vont aller en Argentine, là, comme les nazis avaient fait à la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont aller en Argentine, c'est ça?
C'est
on
ça.
Les retrouver, là.
Personne ne va les retrouver. Hey, parlant de harcèlement sexuel, ça me fait penser, c'est un beau lien avec un petit sujet rapide que je voulais. Mon politically correct, ça là, à comprendre rapidement, je suis souvent embauché pour faire des narrations. Et là, on me dit, OK, Eric, on a un contrat, 90% des chances que ce soit toi qui l'aie. C'est un gros contrat. Parfait, je suis super content. Et on me dit, par contre, c'est avec l'UDA. J'ai dit, laisse-moi juste vérifier avec l'UDA. Fait que le lendemain matin, donc hier matin, 8h30, je suis au téléphone avec l'UDA pour savoir si je peux faire ce contrat-là, puis pour avoir tous les détails. Il n'y a pas de problème. Je rappelle donc mon client, je lui dis, oui, ça va aller. Et on me demande, on me dit, ben là, t'es plus retenu, ça prend une voix androgyne. Mais c'est quoi une voix androgyne? C'est un gars qui a
pas androgyne, androïde, épais.
C'est un gars qui a plus de couilles. Ou c'est une fille qui vient de s'en faire mettre. J'ai...
Une nuque?
J'ai incapable de comprendre. Et bon, j'ai des amis qui sont... Mais tu sais, dans leur façon de parler, on le sait qu'ils sont gays. Puis ils parlent plus aigu que moi. Fait que j'ai soumis leur démo. Bon. Ils ont décidé de revenir finalement avec moi. C'est moi qui ai eu le contrat. Et j'ai su pourquoi ils voulaient une voix androgyne. J'ai compris. Parce que c'est une formation sur le harcèlement sexuel. Et là, ben, ils se sont dit, si on a une voix qu'on n'est pas capable de savoir si c'est un gars ou pas capable de savoir si c'est une fille, ben, on vise personne. On vise aucun groupe de harceleurs. R ou RE. Si tu vois ce que je veux dire. Donc là, on a essayé d'aller dans le politically correct à l'extrême. Ça me fait capoter, je me dis qu'à un moment donné, il faut arrêter d'exagérer. Là.
Ben, ça permet des gags intéressants, en tout cas, te concernant. T'as pas une voix de mâle, c'est ça qu'on comprend. Hein?
Alors,
Pas assez.
On a un appel. On prend un prochain appel. On prend.
Je peux-tu faire une narration androgyne, s'il vous plaît?
Non, on peut pas.
Finalement, ah, ben donc, mais es-tu le même? Bravo pour toi!
J'ai lu quand même, mais...
Ben oui!
Je parle un petit peu plus haut, là, comme ça, là, puis un petit peu plus doux. Là. Je me suis fait couper juste une couille, rien qu'une.
Ah, d'accord. Okay. Bon, tu peux gagner un Tour de France quand même, même si t'as juste une couille, je te le dis, ça change pas grand-chose.
Ouais, mais j'ai pas été... Je suis pas shooté aux stéroïdes.
Ah, ouais, c'est un détail qui manque. C'est ça.
Voilà. La lettre de James Comey sur Trump. Encore une fois, allume mes lumières parce que là, je suis dans brume.
Je t'ai-tu perdu?
Ah, tu me perds dans tes sujets? Ah ben, je te le dis.
Ouais, mais tu vas voir que c'est intéressant. C'est James Comey, qui est l'ancien directeur du FBI, qui avait fait des... Bon, en fait, qui s'est pognassé en masse avec Trump et qui a écrit un livre, d'ailleurs, à ce propos, pour expliquer comment lui, il avait encore la morale et l'éthique à la bonne place. Et il a écrit une lettre, et je vais te la lire. C'est pas très long, c'est une page et demie, mais il dit tout. C'est parfait.
Okay.
Que là, je traduis comme je peux, mais ça...
Sur le fly, OK.
Ouais, comment Trump coopère-t-il avec des leaders comme Bill Barr? Bon, les personnes... il dit... Les gens m'ont posé des questions difficiles. Que sont devenus les dirigeants de l'administration Trump, en particulier le procureur général Bill Barr, qui, ai-je dit, méritait le bénéfice du doute? Comment M. Barr, un avocat brillant et accompli, a-t-il pu commencer à orienter le président en utilisant des mots tels que « il n'y a pas de collusion » et « le FBI espionne » et minimiser les actes d'entrave à la justice en les décrivant comme le simple produit de la frustration et de la colère du président, le genre de choses qu'il ne dirait jamais pour justifier les milliers de crimes traités par la justice chaque jour et qui ne seraient que le produit de la frustration et de la colère? Comment a-t-il pu écrire et dire des choses sur le rapport du procureur spécial Robert Mueller, trompeuses au point de pousser celui-ci à écrire une lettre de protestation? Comment M. Barr pourrait-il comparaître devant le comité judiciaire du Sénat et minimiser la tentative du président Trump de renvoyer Mueller avant la fin de son travail? Parce que oui, Trump a essayé fort. Et comment le procureur général adjoint Rod Rosenstein pourrait-il, après la publication du rapport de Mueller, exposant en détail les efforts de Trump pour faire obstruction à la justice, faire un discours citant le président sur l'importance de l'état de droit, ou bien en démissionnant, remercier un président qui l'a attaqué sans relâche, ainsi que le ministère de la Justice qu'il dirigeait pour la courtoisie et l'humour que vous manifestez souvent dans nos conversations personnelles. Qu'est-il arrivé à ces personnes? Je ne sais pas avec certitude, les gens sont compliqués, alors la réponse est probablement compliquée. Mais j'ai quelques idées après 4 mois de travail auprès de Trump et de nombreux autres mois à le regarder façonner les autres. Les leaders amoraux ont le moyen de révéler le caractère de ceux qui les entourent. Parfois, ce qu'ils révèlent est inspirant. Par exemple, James Mattis, l'ancien secrétaire à la Défense, a démissionné par principe. Concept si étranger à M. Trump qu'il a fallu des jours au président pour se rendre compte de ce qui s'était passé avant de pouvoir mentir au sujet de cet homme. Mais le plus souvent, la proximité d'un chef amoral révèle quelque chose de déprimant. Je pense que c'est au moins une partie de ce que nous avons vu avec Bill Barr et Rod Rosenstein. Les personnes accomplies qui manquent de force intérieure ne peuvent résister aux compromis nécessaires pour survivre à Trump. Ce qui s'ajoute à cette chose dont ils ne pourront jamais se remettre, il faut du caractère comme Mattis pour éviter les dégâts, car Trump dévore votre âme par petites bouchées. Cela commence par votre silence alors qu'il ment, à la fois en public et en privé, vous rendant complice par votre silence. Lors de rencontres avec lui, ses affirmations sur ce que tout le monde pense et sur ce qui est manifestement vrai vous submerge sans contestation de votre part, comme lors de notre dîner privé du 27 janvier 2017, parce qu'il est le président et cesse rarement de parler. En conséquence, Trump attire toutes les personnes présentes dans un cercle silencieux de consentement. Parlant de tir rapide sans laisser de place aux autres pour entrer dans la conversation, Trump fait de chacun un conspirateur de sa vision préférée des faits ou de ses délires. Je l'ai senti, ce président tisse avec ses mots une toile représentant une réalité alternative avec laquelle il enveloppe chaque personne présente dans la salle. J'ai dû admettre qu'il avait la plus grande foule de l'histoire, tu te souviens de cette histoire-là? L'histoire lors de l'inauguration, n'ayant pas voulu contester cela. Il force tout le monde à convenir qu'il a été traité très injustement. Le tissage de sa toile ne s'arrête jamais. Du consentement dans son cercle privé, il passe aux démonstrations publiques de fidélité personnelle dans des lieux tels que les réunions du cabinet. Pendant que tout le monde entier regarde, vous faites comme tout le monde autour de la table, vous dites à quel point le chef est incroyable et quel honneur c'est d'être associé à lui. Bien sûr, vous remarquez que Mattis n'a jamais louangé le président, parlant toujours à la place de l'honneur de représenter les hommes et les femmes de nos forces armées. Mais c'est un cas particulier, non? Ancien général de la marine, après tout. Il est cependant hors de question pour tous les autres que nous puissions nous en sortir. Donc, vous louangez alors que le monde vous regarde et que la toile se resserre. Vient ensuite Trump qui attaque les institutions et les valeurs qui vous sont chères. Les choses que vous avez toujours dites doivent être protégées et vous avez critiqué par le passé les dirigeants qui ne soutenaient pas assez fermement ces principes. Pourtant, tu es silencieux. Parce qu'après tout, qu'est-ce que tu es censé dire? Il est le président des États-Unis. Vous sentez que c'est cela qui est en train de se passer. Cela vous dérange, au moins dans une certaine mesure, mais sa conduite scandaleuse vous convainc que vous devez simplement rester, préserver et protéger les personnes, les institutions et les valeurs qui vous sont chères. Avec les membres républicains du Congrès, vous vous dites que vous êtes trop important pour cette nation, que cette nation vous perde, surtout maintenant. Vous ne pouvez pas le dire à voix haute, hein, peut-être même pas à votre famille, mais en cas d'urgence, avec la nation dirigée par une personne profondément contraire à l'éthique, ce sera votre contribution, votre sacrifice personnel pour l'Amérique. Vous êtes plus intelligent que Donald Trump et vous jouez dans une longue partie pour votre pays. Vous pouvez donc vous en sortir là où les leaders les plus modestes ont échoué et ont été licenciés par un tweet. Ou par un tweet, on pourrait dire ça. Bien sûr, pour rester, vous devez être considéré comme faisant partie de son équipe. Vous devez donc faire d'autres compromis. Vous utilisez son langage, louez son leadership, vantez son engagement à défendre ses valeurs. Et puis, tu as perdu. Il a dévoré ton âme. Voilà.
Voilà. J'aurais dû partir en musique.
Mais c'est bon, mais... Ouais, on aurait pu, mais c'est exactement ça. C'est vraiment par petites bouchées de voir les gens qui embarquent dans son jeu puis qui sont forcés, même si des gens... Il est entouré de gens, c'est pas tout des caves, hein? Ça a des gros diplômes, des grosses carrières, des gros cerveaux.
Ouais, mais c'est pas parce que t'as un gros cerveau puis un... Ouais, mais c'est pas parce que t'as un gros cerveau puis plein de diplômes que tu peux faire, que tu fais preuve de jugement. Et là, puis que t'as les couilles de dire, ben moi je vais démissionner par principe. T'es prêt à te passer de ça sur ton CV. Parce que tu sais que dans 4 ans, tu seras plus là, ou dans 1 an et demi, 2 ans, tu seras plus là. Mais si tu démissionnes, tu peux pas vraiment mettre ça sur ton CV. Fait que tu le veux sur ton CV parce que pour ton propre avancement, t'en as besoin. Fait que tu fermes ta gueule. Même si t'as un gros cerveau pis t'as des gros diplômes, en fait, c'est peut-être là où t'es le plus intelligent. Tu vas pouvoir t'en servir pour... Tu vas monétiser tout ça plus tard.
Oui, mais puis d'autant plus que c'est pas dit qu'il va perdre la prochaine élection. Donc, tu penses aussi à long terme?
Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais j'ai... Ce que j'aime, moi, c'est le vraiment à petite bouchée. Tu te fermes la gueule, puis là, ben, t'es complice d'une menterie. Mais comme t'as déjà été complice d'une menterie hier, t'es obligé de te fermer la gueule encore aujourd'hui. T'es doublement complice. La troisième journée, tu dis, ben là, je me suis fermé la gueule 2 fois, je suis vraiment dans la merde, là, je peux plus parler.
On parle aujourd'hui.
Là, t'es foutu. Tu vois, j'avais jamais regardé ça de cet angle-là. C'est extraordinaire. Comment. Yep.
Mais c'est une question de morale. Tu sais, ça veut dire que la morale est ailleurs. La morale est ailleurs. Tu peux avoir un gros cerveau, mais ta morale peut être élastique, et c'est leur cas.
Totalement. Puis je pense que Trump, il se lève pas le matin, il s'est pas levé un matin en disant « C'est ça que je vais faire avec les gens autour de moi. » Il s'en rend même pas compte de ça.
Moi, je suis convaincu que ça s'en rend pas compte.
Il s'en rend pas compte que c'est ça qu'il fait. Et c'est les gens qui sont autour de lui qui, éventuellement, vont en souffrir. Parce que lui, malheureusement, et à partir de maintenant, il sera toujours Monsieur le Président pour le reste de sa vie. Même s'il ne gagne pas aux prochaines élections, il va toujours être reconnu comme Monsieur le Président.
Bien sûr. Tu portes le titre à vie, puis d'ailleurs, tu as un système de protection quand même, malgré tout, une fois que t'es parti.
Voilà. Donc, lui, il est correct, là. Il a fait ce qu'il voulait. Son nom est dans les livres d'histoire, puis ceux des autres, on s'en sac un peu.
Ouais, mais là, les livres d'histoire, ça a été écrit par des démocrates, des gauchistes qui n'ont rien compris. Hein? C'est des fake books. Fake books!
C'est tout du fake. Le 9 mai 1998, à Saturday Night Live... Jimmy Page s'installait sur le stage avec Puff Daddy et il jouait cette tune-là. Pourquoi je l'ai choisie? Juste parce que je l'aime. Je la trouve juste bonne, cette tune-là. Il n'y a pas beaucoup d'histoires autour d'elle, malgré que j'ai trouvé d'autres choses de très intéressantes à propos de Puff Daddy, mais c'est pas cette tune-là. C'est tiré également du film de Godzilla et c'est utilisé à plusieurs reprises dans plusieurs endroits, comme par exemple un stade de football en France celui de l'Olympique de Marseille utilise ça quand l'Olympique marque un but. Il y avait Derek Jeter des Yankees de New York qui utilisait cette chanson-là également lorsqu'il entrait sur le terrain pour se rendre au marbre. Et ça a été utilisé dans plusieurs films et autres séries.
Andrew Scheer, il prend ça aussi avant de rentrer dans la douche, il paraît.
Il y en a besoin, comme with me. Et tout ce que ça me rappelle, c'est que je me suis rendu compte que moi, il y a un moment donné dans ma vie où ce mélange de rap et de rock, là, j'aimais beaucoup ça. Puis quand ça a sorti, ce tune-là, j'aimais bien ça. Et...
Et Will Smith ayant fait le mélange avec le rap à peu près le plus célèbre, là.
Totalement. En fait, ça a relancé leur carrière. Run-DMC a relancé Aerosmith qui allait absolument nulle part. Et Aerosmith, de par leur notoriété, ont donné un push à Run-DMC. Ça a été merveilleux. Il y a Public Enemy qui avait fait la même chose avec Anthrax. Et il y a des bands qui le faisaient eux-mêmes. Et là, rappel d'un premier dimanche du mois d'octobre 92, Faith No More est un band de rock, rap. Et si tu te souviens bien, la première pièce que j'ai présentée, c'est Be Aggressive de Faith No More. Et je n'étais plus capable d'arrêter de parler. Toi, tu es l'autre bord de la console. Arrête de parler. Coupe à la tête.
Le boss. Aggressive. Be aggressive.
Le boss est en arrière de moi, puis il me regarde, puis moi, je suis juste pas capable d'arrêter de parler. C'était merveilleux. Je suis heureux qu'on n'ait pas d'extrait de ça. Mais en cherchant sur la toune de... On n'a pas le temps. Faut pas que j'arrête de parler, là. Arrête, là. Faut pas que j'arrête de parler. En cherchant sur cette toune-là, je me suis dit, OK, mais c'est qui ramasse les sous quand elle joue cette toune-là? Est-ce que c'est Page? Est-ce que c'est Led Zeppelin? Ou est-ce que c'est Puff Daddy? J'ai pas réussi à le retrouver. Mais par contre, et là, je l'aime beaucoup, mais je vais la fermer parce que je vais raconter ça très rapidement. Puff Daddy, à un moment donné, est devenu P. Diddy. Et quand son ami...
C'était bien meilleur.
Oui, totalement. Maintenant, il est juste Diddy. C'est tout est mieux. Il a écrit en 1997 une toune qui s'appelle I'll Be Missing You. C'était pour son ami Notorious B.I.G. qui avait été qui est mort. On l'a tiré, tout simplement. Et il avait repris les 5 notes de la toune de The Police. Voilà, et je viens d'avoir un blanc. Every Breath You Take. Every Breath You Take, 5 notes. Et à cause de ces 5 notes-là, Sting reçoit $2,000 en droit d'auteur à tous les jours. Grâce à Puff Daddy et cette tune-là, I'll Be Missing You. C'est $730,000 par année que Sting reçoit. Et attention, c'est pas le pire dans l'histoire, c'est que y a rien là-dedans. On l'entend pas, Sting. C'est pas lui qui joue les notes, c'est pas lui qui les a inventées. C'est Sumner qui les a fait. Et dans la façon dont tout ça, les droits d'auteur sont faits, c'est celui qui a écrit les paroles de la toune qui reçoit les sous, et non pas celui qui l'a, tling, 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 qui l'a inventé. Donc, il reçoit rien. Sumner, il reçoit absolument rien pendant que Sting reçoit $2,000 par jour.
Ben écoute.
Merci à Puff Daddy qui n'a pas demandé pour utiliser les notes de Every Breath You Take.
Je sais pas si tu te souviens, puisqu'on parle d'artistes de rock et de rap. Moi, la meilleure qu'on avait vue dans les dernières années, ça remonte à autour de 2015. C'était Kanye West qui faisait un show qui était avec Paul McCartney. Et des gens sur Internet avaient écrit que c'était fin que Kanye West puisse aider des artistes comme le gars qu'on sait pas c'est qui, mais ça va l'aider beaucoup dans sa carrière.
Oui, je me souviens d'avoir entendu ça.
Là, il se faisait planter à dire c'est parce qu'il était à côté de la plus grande vedette rock de l'histoire de la musique. Chris, t'étais où? Mais tu sais, tu peux pas connaître grand-chose, mais faut être épais rare. Tu sais, avoir manqué les Beatles, là, moindrement que tu apprends à lire un peu, tu vois le nom passer quelque part un moment donné, particulièrement en anglais, on parle d'anglophones, je parle pas de gens de C'est pas des francophones qui avaient jamais... Non, c'est le fun. C'est des jeunes qui aiment le rap, là, aux États-Unis, qui avaient dit « C'est fin que Kanye West puisse aider cet artiste inconnu.
» C'est extraordinaire. Mais tu vois, je trouve que ça nous fait un beau lien, les jeunes, avec le sujet qu'on peut aborder tout de suite. c'est-à-dire les jeux vidéo à l'école.
Oui, oui, ben oui, parce que c'est un sujet qui est dans l'actualité depuis quelques semaines, parce que le ministre de l'Éducation du Québec, le ministre Roberge, s'est montré ouvert à voir les jeux vidéo entrer dans les écoles secondaires, mais particulièrement c'est dans les collèges pour l'instant que ça s'installe, c'est-à-dire que dans plusieurs collèges au Québec, on crée des programmes, des fois ça peut être juste l'amusement du midi, mais dans certains cas on parle de programmes, c'est-à-dire qu'on crée des e-sports, hein, c'est des e-sports, et là c'est les étudiants sont présentés comme des athlètes, hein, parce que tu sais comme moi qu'on est très athlétique, là, quand on joue au hockey sur la PlayStation, j'ai le cardio dans le top, là, hein, mes pouces sont musclés. Fait que, on les présente comme des athlètes pour vrai, puis qu'on dit non, mais attention, là, c'est des étudiants athlètes, ils ont un programme, donc on va quand même faire parler de saines habitudes de vie, de l'alimentation, du positionnement, du corps, de faire attention, les choses, très drôle, bref. Et c'est la raison pour laquelle il y a des députés.
Malheureusement, la connexion est un peu ordinaire, ça risque de revenir, mais je ne sais pas si tu m'entends encore.
Yes.
Je t'ai perdu pendant quelques secondes. Tu m'entendais bien, toi? Bon, je te perds.
Oui.
OK. Mais tu sais que ils ont rien inventé, hein. Ça fait déjà plusieurs années que il y a une université américaine qui offre un bac en e-sport. Et
c'est merveilleux.
La raison est fort simple. Il y a des milliards de dollars présentement dans l'industrie du e-sports. Donc, pour cette université-là, puis là, je pense à l'université, c'est une université américaine, vous comprendrez que là-bas, c'est beaucoup plus facile de donner des commandites. Donc, eux, ils veulent avoir des étudiants qui seront les meilleurs au monde, qui éventuellement redonneront à leur alma mater. C'est un petit peu... Moi, en tout cas, dans le reportage que j'ai vu, c'était du non-dit, ça. C'est ce que moi, j'en comprenais. Est-ce que c'est une bonne idée de créer ça pour nos jeunes d'aujourd'hui dans un programme au complet? Moi, je pense que c'est un peu exagéré. Présentement, les carrières des e-sporters, là, c'est de 16 à 21, 22 ans. Dude, t'as un diplôme en e-sports, c'est fin, mais à 22 ans, là, tu fais quoi? T'auras peut-être gagné 1, 2, 3, 4 millions par année parce que t'es un des tops. Mais à 22 ans, quand même que ton compte de banque est plein, il te reste encore un beau 60 ans à vivre. Hein? Fait que j'espère que t'as un plan B puis que ce plan B-là a passé par d'autres connaissances que d'être le meilleur à Donkey Kong.
En effet.
Tu sais, vas-y.
Ben, j'allais dire, tu sais, dans les arguments qui sont avancés, puis c'est pas fou, je vais te lire juste un petit paragraphe. Je fais beaucoup de lectures aujourd'hui, j'aime ça, je trouve ça le fun. Le député de Pontiac, que tu connais bien, a soulevé certains arguments intéressants. Il dit « Des dizaines de milliers de parents partout au Québec ont un défi quotidien, tenter de réduire le temps d'écran de leurs enfants, tenter de limiter le nombre d'heures que les enfants passent devant les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, ça a des effets très directs sur la santé de nos enfants, et ça mène aussi des adolescents à l'isolement, au repli sur soi, ça a des effets sur la santé mentale, et ça peut créer des dépendances qui sont difficiles à briser. Beaucoup de gens, beaucoup de parents se demandent si le plan du ministre est vraiment la voie à suivre. » C'est très intéressant. Et c'est vraiment là. Moi, je suis à la même place. C'est sur la santé, sur les valeurs aussi que ça véhicule, à savoir le sport, le vrai sport. Tu es obligé de parler, hein, de personne à personne, entre humains. Tu es obligé de négocier. Tu es obligé de régler des conflits. Tu es obligé de socialiser, de te parler, puis de briser. L'isolement dont parlait le député. Tu es obligé de regarder les personnes dans les yeux, tu sais, je veux dire, au lieu d'avoir un avatar, puis dire « je m'appelle Roger 33 », tu sais, je veux dire, c'est des belles et bonnes questions.
Moi, j'ai un kid de 13 ans ici, puis il adore ça, les jeux vidéo, mais j'ai compris pourquoi il aime autant les jeux vidéo, parce que c'est à ce moment-là, il peut socialiser. À l'école, il y a des amis, là. Pensons pas, mon garçon, selon d'autres personnes qui vont à son école qui sont plus vieux que lui, il est très social. C'est une petite star, puis bon, OK, il aime ça bien paraître, puis se montrer, puis j'ai l'air. Mais quand il arrive à la maison, c'est pas jouer aux jeux vidéo tout seul que lui aime. Lui, il aime ça s'installer. Bon, Fortnite est très populaire présentement, puis ce qu'il aime, c'est ça, c'est qu'il continue de jaser avec ses amis. Pour l'isolement, peut-être que mon gars, c'est un exemple à part, mais je pense pas. Je pense pas que c'est un exemple à part. Je suis pas sûr que les jeunes s'isolent autant que avant, où le seul moyen de jouer, c'était tout seul devant ta console. Aujourd'hui, tu joues plus tout seul devant ta console. Tu joues en ligne avec d'autres joueurs. Tu vas te créer des connaissances. Par contre, je suis d'accord avec toi, entre dealer avec un avatar puis quelqu'un qui est au bout du fil à l'autre bout puis avec qui tu peux flusher n'importe quand, puis dealer avec ton partenaire de jeu qui est direct à côté de toi puis tu l'as d'en face puis tu sais qu'il va être là au prochain jeu puis tu peux pas le flusher, c'est très, très différent. Moi aussi, j'abonde dans moins d'écran, mais il y a du bon pareil dans les... Il y a des affaires sur
lesquelles... L'idée, c'est pas... J'ai jamais entendu... j'ai pas entendu de gens experts ou autres dire que les écrans devaient être bannis, mais c'est, devaient être vraiment contrôlés et que c'était pas une urgence de rentrer ça dans les écoles sans études, sans rien, parce que on avance ça puis il y a pas d'études probantes. Tu sais, c'est un peu spécial, je trouve, que d'introduire quelque chose sans savoir exactement où est-ce qu'on s'en va, parce que cyberdépendance, c'est pas une vue de l'esprit, là. Ça existe. Il y a des cyberdépendants. Ça existe pour vrai. Et d'ailleurs, Fortnite est un excellent moyen de développer la cyberdépendance. Donc, ce faisant, il faut y aller avec attention. Puis quand tu parlais de socialiser, les experts disent notamment que de plus en plus, ils observent dans les classes que même juste demander à deux jeunes, ils font des exercices. Ils prennent deux jeunes dans la classe, ils disent « Hey, toi, puis toi, viens en avant. Présentez-vous. » Là, il y a comme un blanc, une gêne atroce. Ils sont de moins en moins capables d'établir des relations normales d'humain à humain. C'est ça aussi qu'on voit s'évaporer avec le temps, d'où l'idée de dire, si on introduit ça, peux-tu y aller avec parcimonie, faire ça avec beaucoup de soin, parce qu'il y a des réflexes humains, il y a des qualités humaines qu'il faudra toujours conserver et qu'on doit développer, notamment dans le milieu scolaire.
Totalement d'accord. Je pense par contre que le jeu vidéo, étant donné l'intérêt que les jeunes y portent, peut être un outil dans le cadre de moments d'apprentissage dans la journée. Aparté niaiseuse peut-être, mais je suis de la génération Passepartout, et moi, en première puis en deuxième année. C'est en deuxième année que Passepartout, j'étais en deuxième année quand Passepartout est sorti, ou en première. Ben à 9h30 le matin, quand ça jouait à Télé-Québec, le professeur fermait les lumières, mettait la télé là, et utilisait Passepartout comme un outil d'apprentissage pour nous, qui était assis là. C'était nouveau, là. Puis lui, ça lui donnait une demi-heure.
Parce qu'Aro montrait comment nous laver, oui, je me souviens.
Oui, monsieur le chat. Et elle, ma prof pouvait s'installer dans le coin et fumer une cigarette pendant une demi-heure, elle avait un break. Mais est-ce que les jeux vidéo peuvent pas être ça aussi? Un outil d'apprentissage, créons un Assassin's Creed de l'école, puis leur permettre d'apprendre des choses? Oui, mais un programme qui est basé que sur les jeux vidéo, je suis d'accord avec tous les arguments que tu as
posés. Puis tu sais, l'idée aussi de dire que le e-sport, c'est du sport. Tu sais, calmons-nous. L'appeler ça du e-game, je sais pas quoi, mais le sport, laissez le sport au sport. Parler à des athlètes, à des sportifs qui se cassent le derrière à être joueur de football dans leur équipe, à être joueur de hockey, à être dans l'équipe sportive de volleyball, de natation ou autre. Dites-leur de comparer les exigences physiques, l'entraînement, la rigueur que tu peux avoir versus le gars blanc à bouton qui est assis derrière son écran, qui game et qui est bien bon, qui est la première étoile de son équipe de e-sports. Là.
Mais à ce moment-là, un chauffeur de F1, un pilote de F1, c'est-tu du sport, la F1? Est-ce que les échecs, c'est du sport?
Il n'y a personne qui dit que les échecs, c'est du sport.
Je pose la question, là.
Non.
Mais, tu sais, il y a peut-être des sports qui demandent moins d'efforts physiques, puis on les considère comme des sports auxquels il faudrait peut-être... Je suis d'accord avec toi, là. Le e-sport, c'est pas du sport. C'est le e-game. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais je pense qu'il y a des aptitudes que tu dois avoir. Dans le cas du e-sport, je ne sais pas si tu as regardé ça un peu, mais... T'es pas tout seul, hein. C'est des équipes qui sont ensemble. Les gars, ils pratiquent, ils essaient de se trouver des stratégies qui vont faire qu'ils seront capables de battre une autre équipe. Donc, tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui peut peut-être se rapprocher un peu à du sport. Puis peut-être qu'ils sont un peu fatigués mentalement, puis du pouce à la fin. Là. Je sais pas. Là.
Sans doute. Sans doute. Voilà. Je suis convaincu.
Hey, là, je t'ai convaincu. J'avais des arguments massifs.
Ah oui, non, moi. Moi, avec mes pouces, là, je suis capable de lever mon char à cette heure. Je m'installe, quand je veux changer la roue, là, je lève mon char avec mes pouces. Je te jure. C'est terrible, le e-sports. Un vrai athlète. Un pied d'athlète.
J'aime tellement ça. Me rendre compte que j'ai convaincu quelqu'un de même, là, ça me fait complètement... ça fait ma soirée. Ça fait...
Ouais, c'est clair.
Ça fait ma soirée. Juste avant de terminer, je la lance celle-là, parce qu'elle va nous accompagner jusqu'à la fin. Parce que c'est une chanson qui représente bien la génération dont toi et moi faisons partie, parce que ça vient du mouvement grunge.
Ben oui, on reconnaît ça. Black Hole Sun. Snake
and the sun in my disgrace. Je trouve ça tellement bon.
Très beau.
Donc j'aime ça nous accompagner vers la fin du show, mais avec un petit jazz comme ça, ça fait changement. Puis je trouve que ça se prête bien à ce que je veux, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est dans la presse. Sur la Presse Plus, vous allez pouvoir trouver ça, c'est un billet de Hugo Dumas qui dit que la génération X contrôle les ondes d'ici première. Il est fier de mentionner que Patrick Masbourian, qui a 49 ans, sera au contrôle de l'émission du matin, que Penelope McQuaid, elle, fera ce qu'on appelle le mid-morning dans le jargon, donc le 9 à 11h30. Et que Marie-Louise Arsenault et Anne Desrochers, qui sont là aussi, c'est des gens de la génération X. Et quand on lit son article, il semble être un peu surpris que ce soit tous des X qui soient là. Ils ont 50 ans. C'est pas... Les gens qui étaient là avant, les gens qu'eux remplacent, ont eu ces postes-là à l'âge de 30 ans. Ça leur a pris aux gens de la génération X... 48 ans pour avoir des bons postes à la radio. Puis ça, c'est un exemple parce que je pense que dans la société, c'est là où on est rendu. Les boomers se tassent. À un moment donné, on n'a pas le choix. Mais toi et moi, on est rendu à 46, 47 ans. On a déjà la moitié de fête de notre temps de travail.
Ah oui, c'est vrai. Mais oui, puis qu'est-ce que tu veux, regarde, on est maintenant dans des positions de direction, de décision que certains ont effectivement à une certaine époque atteint à l'âge de 24, 25, 26 ans.
Ah oui, c'est ça.
Wow. Donc, on n'est pas là.
Non, on est vraiment, vraiment, vraiment pas là, puis c'est le temps
Joël Lebigo est encore à radio, lui est là depuis 1912. Là.
Oui, mais lui, ils ont bâti la station autour de lui. C'est comme ça que ça s'est...
Oui, c'est ça. Comme des arbres qui ont des murs. Là, des... Oui, c'est ça. C'est exactement
totalement,
ça.
Lui, il va rester dans la tour. Tout le monde va bouger dans le nouveau building, mais lui, il va rester dans la tour. Ils vont y faire un plancher juste pour lui. Je suis content que la génération X, finalement, ait ce qu'elle mérite parce qu'on n'est pas X pour rien. On a été sacrifiés, semble-t-il. On est la génération sans futur. Ben voilà, on arrive. On arrive, man.
Ouais, c'est ça. En tout cas, je souhaite bonne chance parce que c'est tout un contrat. Puis je pense que remplacer Marie-France Bazot, ça aura été finalement à peu près jamais été possible.
C'était impossible. C'est. En fait, même remplacer l'ancienne critique de cinéma, j'oublie son nom, là, le cheveu blanc.
René Aumirois.
René Aumirois. C'est René Aumirois qui était irremplaçable. C'est lui qui menait le bal, qui menait devant Paul Arcand, puis personne n'a réussi à le remplacer. Puis il est encore intéressant, mais je l'écoute une fois de temps en temps le dimanche, puis ce gars-là, il est juste intéressant.
Comme des hôtels aussi, d'ailleurs, des hôtels qui est pour moi mon idole, c'était mon idole. J'étais content parce que quand j'ai sorti mon livre sur la bombe, je m'en allais à Montréal, je t'ai invité à son émission, je dis, je vais rencontrer mon idole, mais là, il était en une semaine de remplacement. Fait que je ne l'ai jamais rencontré.
Ah! Hey! Il nous reste 5 secondes là-dessus.
Salut!
On se parle la semaine prochaine. Bye bye.
Bonne semaine.
Bon, ben,